Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Vatican. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme. Dans l'actualité de l'Église, après la semaine du Pape, la synthèse des activités du Saint-Père au cours de la semaine qui vient de s'achever, nous nous rendrons en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et au Bénin. En ce qui concerne l'actualité sociopolitique africaine, nous nous rendrons notamment en Somalie, au Nigeria, en Centrafrique. À tous et à toutes, encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niemier.
Ouvrons l'actualité de l'Église par la semaine du Pape, Camille Mokoso.
Le Pape a reçu en audience privée samedi Mgr Gianpietro Golder dans sa apostolique à Cuba. À l'occasion du 90e anniversaire de Radio Vatican, le Saint-Père a envoyé un message pour encourager les journalistes et les employés de cette institution, les invitant à parler au monde avec courage et créativité afin de faire émerger la vérité des choses. Le Pape a aussi loué le média radio pour sa capacité à mener une parole dans les périphéries géographiques, même le plus reculé. Il a été rendu public vendredi le message du Pape pour le temps des carêmes, message intitulé « Voici que nous montons à Jérusalem ». Dans ces temps des conversions conduisant aux célébrations pascales, écrit François dans son message, « Nous renouvelons notre foi, nous puisons l'eau vive de l'espérance et nous recevons le cœur ouvert l'amour de Dieu qui fait de nous des frères et sœurs dans le Christ. L'itinéraire du carême comme l'itinéraire chrétien est déjà entièrement placé sous la lumière de la résurrection qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi que le choix de ceux qui veulent suivre le Christ, a fait remarquer l'évêque de Rome, considérant le jeûne, la prière et l'aumône comme conditions et expressions de notre foi. Il a été célébré jeudi dernier la 29e journée mondiale du malade, mémoire de Notre-Dame de Lourdes. Le Saint-Père a affirmé que cette journée était un moment propice pour réserver une attention spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu'au sein des familles et des communautés. Pour les Saints-Pères, l'expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité et en même temps le besoin inné de l'autre. Notre condition des créatures devient encore plus claire et nous faisons l'expérience d'une manière évidente de notre dépendance des dieux. Mercredi, le Pape avait tenu son audience générale dans la bibliothèque du Palais apostolique, centrant sa catéchèse sur la prière, ancrée dans la liturgie avec un accent sur ses implications dans la vie quotidienne. Dans la prière, a indiqué François, tout est assumé dans le dialogue avec Dieu, chaque joie devient un motif de louange, chaque épreuve est l'occasion d'une demande d'aide. Le Saint-Père a invité tous les fidèles chrétiens à prier toujours pour tout et pour tous. « Prions », a-t-il déclaré, « pour nos proches, mais également pour ceux qui ne nous connaissent pas, prions même pour nos ennemis, comme l'Écriture nous l'invite souvent à le faire. » Lundi, le Pape a rencontré le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège à l'occasion d'échanges des vœux des débuts d'année. Dans son adresse, le Pape n'a pas manqué de mentionner différentes crises que traversent diverses régions du monde.
Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo, vient de clôturer récemment une visite pastorale dans la province ecclésiastique de Lubumbashi. Il nous parle du cadre de cette visite et de sa mission au sein de l'Église. Il nous donne également ses impressions sur cette visite pastorale, notamment sur les défis à relever dans le développement, ainsi que de son message sur la situation qui prévaut dans cette partie de la République démocratique du Congo. On l'écoute.
C'est d'abord une visite pastorale. Dans le cadre de mon travail actuellement, en tant que conseiller aussi du Pape, il est capital que je connaisse la réalité socio-pastorale de nos diocèses pour pouvoir aussi mieux aider le Saint-Père. Dans ce cadre, j'ai déjà commencé dans certaines provinces ecclésiastiques. Cette fois-ci, c'était le tour de la province ecclésiastique de Lubumbashi. J'ai visité essentiellement les trois diocèses qui constituent la province administrative du Haut-Katanga, à savoir l'archidiocèse de Lubumbashi, le diocèse de Sakanya-Kipushi et le diocèse de Kilwa-Kasenga. Donc la finalité, c'est d'abord le pasteur qui vient à la rencontre de ses fidèles, de ses brebis, pour donner aussi l'occasion aux brebis de connaître leur pasteur. Et vraiment, l'expérience faite sur le terrain montre exactement que le peuple de Dieu a besoin de cette proximité pastorale avec le pasteur.
Et quelle impression générale vous avez de ces diocèses visités, du côté joie, du côté peine, comment est-ce qu'ils vivent leur foi et comment est-ce qu'ils vivent aussi d'une manière socio-économique?
Sur le plan joie, ça a été un moment de grande exultance. Je crois que le peuple de Dieu a vécu ma visite comme un moment de réconfort spirituel et un moment de confirmation pour chacun, que ce soit des laïcs, que ce soit des consacrés, que ce soit des prêtres. Même aussi mes confrères, les évêques, ils se sont sentis confirmés dans leur vocation, dans leur charge, dans leur ministère. Et c'était vraiment avec beaucoup de bonheur que les gens venaient voir le cardinal. Le voir comme ça pour eux, c'était vraiment un grand moment de bonheur. C'est aussi des diocèses, tous les trois, j'ai vu, ce sont des diocèses très très dynamiques, avec des pasteurs qui sont vraiment aux côtés de leur peuple et qui font de leur mieux pour que l'évangile soit connu dans cette partie de notre pays. C'est avec ce sentiment de gratitude pour mes confrères, pour les prêtres, pour les consacrés et tous les laïcs que j'ai quitté ce diocèse. En même temps, les défis sont là. Vous savez, le Haut-Katanga est considéré comme une des quatre ou cinq provinces les plus riches de notre pays. Mais même là, j'ai vu de misère. Un peuple qui a tout avec toute la potentialité qui regorge cette province, mais à côté, il y a aussi beaucoup de misère. En termes de voies de communication, en termes de distribution de richesses, il y a des gens qui ont beaucoup, d'autres n'ont rien. Et si cette province qui est classée parmi les plus riches a aussi autant de pauvres, le sentiment qui m'habitait quand je voyais tout ça, alors quel en est des autres provinces qu'on considère comme des provinces pauvres? C'est dire combien la misère est la chose la mieux partagée au Congo.
Et si vous pouvez être la voix de ces 100 voix de la population que vous avez rencontrée, quelles doléances vous pouvez faire arriver aux oreilles des responsables politiques, disons aux autorités nationales et pourquoi pas à la communauté internationale pour savoir un peu les difficultés que ces populations vivent et quelles solutions on peut trouver pour elles?
J'ai commencé mon plaidoyer au niveau de la province du Haut-Katanga. J'ai été reçu par le gouverneur de la province et puis ses collaborateurs. Lui-même est venu aux célébrations que j'ai présidées à Lubumbashi. J'ai eu le temps de parler avec lui. Nous avons fait une partie de la visite à Mokambo où il avait construit une morgue. J'ai eu le temps de parler avec les autorités provinciales, de sensibiliser aux défis de développement que je voyais sur le terrain. Ce qui me fait du bien, c'est que globalement, nous voyons les choses de la même manière. On voit quand même que ce sont des autorités qui ont le souci du bien de leur population. Naturellement, ils sont aussi conditionnés par les jeux politiques, les intérêts politiques, etc. Mais ils veulent aller de l'avant. Je vois partout des routes qui se construisent. Ils font un effort, mais ils doivent aller plus loin. Au niveau national, comme je viens d'arriver, j'aurai l'occasion de répercuter les enseignements majeurs de ma visite au Katanga auprès du chef de l'État, auprès des autorités nationales. Si l'occasion me sera donnée, je crois que je ferai aussi répercuter ça au niveau de la communauté internationale. On a beaucoup de richesses dans cette partie du pays, mais c'est une richesse inégalement répartie et c'est inacceptable.
Éminence, je pense que les chrétiens, les fidèles, la population de la province ecclésiastique de Lubumbashi suivent aussi Radio Vatican. Quel message vous pouvez leur envoyer comme mot de la fin à partir de Radio Vatican?
Mais j'ai attiré l'attention des fidèles la dernière messe que j'ai présidée à la cathédrale sur un point qui me paraît capital, c'est la cohésion, la communion entre les fils et les filles de la province du Katanga. Il y a comme une sorte de feu qui couve essentiellement entre ce qu'on appelle les Katangais et ce qu'on appelle les Kassaïens. Je voudrais encore ici attirer l'attention sur ces dangers, que nous ne tombions pas dans ces risques-là, nous sommes tous des frères et que nous apprenions à travailler dans le respect de l'identité des uns et des autres. C'est en travaillant ensemble que nous serons plus forts, mais pas céder à la tentation du communautarisme. Ça, c'est le grand risque que je vois actuellement et sur lequel j'aimerais attirer l'attention de nos frères et sœurs de cette province, essentiellement des agents pastoraux.
Cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo, propos recueilli par Jean-Pierre Bojoko. Caritas Côte d'Ivoire a procédé le mardi 9 février dernier au centre Serao de pastoral et de mission à Abidjan-Cocody au lancement du projet Grêle, un projet visant à renforcer l'engagement des organisations confessionnelles dans l'accélération du diagnostic précoce et du traitement des enfants séropositifs. Les détails avec notre correspondant sur place.
Ce projet permettra à terme de renforcer l'engagement des organisations confessionnelles ivoiriennes dans l'accélération du diagnostic précoce et du traitement des enfants vivant avec le VIH et SIDA. Lors de la messe qu'il a présidée, bien avant la cérémonie d'ouverture, Mgr Bruno Yedo, évêque du diocèse de Bondoukou, dans son exhortation, a salué l'implémentation de ce projet dans son pays qui, pour lui, aidera les enfants âgés de 0 à 14 ans séropositifs qui ont besoin de suivi et de traitement afin de réduire leur taux de mortalité. L'évêque président de la Commission épiscopale ivoirienne du développement humain intégral, dans son discours d'ouverture, a salué l'engagement de l'Église dans le domaine de la santé. Il a félicité et exprimé sa fierté à Caritas, cet instrument de mise en œuvre de la pastorale sociale de l'Église, avant d'inviter tous à rêver d'un sursaut de compassion. Il faut souligner que la mise en œuvre de ce projet a débuté par un atelier de formation de 2 jours des guides religieux et représentants de structures de santé confessionnelles. La phase pilote de ce projet permettra sa mise en œuvre pendant 2 ans dans 8 régions sanitaires de Côte d'Ivoire et dans 18 districts sanitaires. Le projet Grêle sera implanté dans les diocèses d'Abidjan, du Yopougon, Grand Bassam, Korogo et Katiola. Ce projet est conçu par Caritas Internationalis et expérimenté avec succès au Congo et au Nigeria. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Au Bénin, le mouvement Capital Social Chrétien de l'ambassadeur Théodore Loco a organisé un colloque international en différé le vendredi 5 février dernier sur le thème « Journée internationale de la fraternité humaine ». Reportage.
Au campus universitaire d'Aboumé-Calavi au Bénin à l'amphithéâtre Idriss Déby, le mouvement Capital Social Chrétien de l'ambassadeur Théodore Loco a organisé un colloque international en différé le vendredi 5 février 2021 au lieu du 4 février, le jour d'incidence, sur le thème « Journée internationale de la fraternité humaine » décrétée par l'Organisation des Nations Unies. Outre le mot de bienvenue du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, le professeur Maxime Dacruz, la pertinence de la journée a été présentée aux participants par l'aumônier national des cadres et personnalités politiques du Bénin, le père Nathanaël Souédé, à partir d'un exposé sur « Journée internationale de la fraternité humaine et fraternité » comme socle de la devise du Bénin « Défi pour notre pays ». Mais c'est à son éminence, Peter Cardinal Turkson, préfet du dicastère pour le développement humain intégral au Vatican, qui est revenu en visioconférence de procéder au lancement de la journée. La grande conférence de la rencontre a été celle du président du mouvement, l'ambassadeur Loco, sur le thème « Fraternité et capital social ». Elle a permis aux conférenciers de montrer à l'assistance la différence entre fraternité et histoire sociale et fraternité et histoire globale. Il a enfin conclu sur un thème sud-africain, Ubuntu.
Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres, car il a conscience d'appartenir à quelque chose de plus grand. Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes.
Guy de Suyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a annoncé samedi que les électeurs de son pays voteront le 14 mars prochain pour le second tour des élections législatives dans certaines circonscriptions et pour le premier tour dans celles où le vote a été empêché par des violences ou annulé pour irrégularité. En Somalie, au moins 3 personnes ont été tuées et 8 autres blessées samedi dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un point de contrôle sur un axe clé de la capitale Mogadiscio, selon un responsable sécuritaire et des témoins. Et selon ces témoins, la police a ouvert le feu sur le véhicule et l'a pris en chasse. Cela a permis à de nombreuses personnes de s'écarter de la route. La police nigériane a arrêté samedi à Lagos un petit groupe d'une dizaine de personnes qui tentaient de se rassembler au péage de Liki où plusieurs manifestants ont été tués par balle par les forces de sécurité en octobre dernier. Plusieurs figures du mouvement Hand Sarks contre les violences policières qui ont eu lieu au Nigeria en octobre dernier avaient appelé à occuper samedi ce péage pour réclamer justice pour les victimes après la décision d'un tribunal d'autoriser sa réouverture. Direction République démocratique du Congo. Les autorités de ce pays ont annoncé vendredi la réouverture le 22 février des écoles et des universités fermées mi-décembre pour freiner la propagation du coronavirus qui était alors en forte accélération. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et les membres du comité chargé de la riposte contre le coronavirus dirigé par le professeur Jean-Jacques Muyembe, a expliqué le ministre de l'Intérieur Gilbert Kankondé. Toujours en République démocratique du Congo, les avocats des partis civils dans l'assassinat en 2010 du militant des droits de l'homme, Floribert Chebeya, a annoncé vendredi avoir déposé une plainte au parquet militaire contre un général congolais.
Radio Vatican, France-Afrique, Françoise Niamier.
Le ministre de la Santé zimbabwéen a annoncé vendredi que la campagne de vaccination contre la COVID-19 commencera la semaine prochaine, ce qui fera du Zimbabwe le premier pays du sud de l'Afrique à vacciner ses habitants. Le gouvernement tchadien a interdit vendredi des manifestations tandis que plusieurs associations de la société civile et partis de l'opposition ont appelé à des marches et sit-ins à partir de samedi à N'Djamena et en province pour réclamer l'alternance à 2 mois de la présidentielle dont le grand favori est Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 30 ans. Le père jésuite Jean-Paul de Savie nous introduit à la méditation avec la lecture du 6e dimanche du temps ordinaire.
Chers frères et sœurs, à quelques jours du début du temps de carême, la méditation des lectures de ce dimanche peut susciter en nous quelques réflexions. Qui sont les lépreux d'aujourd'hui? Quelle est mon attitude envers eux? Ou encore, de quelle lèpre suis-je atteint? Le contexte des lectures de ce dimanche ressemble beaucoup à la situation que notre monde vit actuellement avec la pandémie de la COVID. Dans la première lecture, nous avons le protocole légal et religieux qui était prescrit en cas de lèpre. En effet, du fait que la maladie était éminemment contagieuse et surtout qu'il n'y avait pas de remède pour la guérir, sinon un miracle, le bien de la communauté était privilégié au détriment de l'individu lépreux. La personne qui présentait les symptômes de la lèpre était déclarée impure. Elle est exclue du culte et privée de tout contact social. Le lépreux ne souffrait donc pas seulement dans son corps, mais aussi dans son âme. La lèpre est une maladie qui défigure les personnes et ruine leur peau. Les lépreux deviennent abominables. Ce sont des personnes à ne plus fréquenter ni toucher au risque de devenir aussi impures. Les lépreux sont rejetés, marginalisés. Que la vie du lépreux est dure à vivre. Mais quel regard pouvons-nous porter sur une personne que nous aimons tant, mais qui est atteinte par la lèpre? Dans l'évangile de ce dimanche, nous voyons une scène hors du commun. Un lépreux ose s'approcher de Jésus, et Jésus ose lui parler et le toucher. En effet, pris de compassion, Jésus n'a pas craint de transgresser les interdits de son peuple. De cette double audace naît le miracle. La liberté que Jésus a vis-à-vis de la loi provient de son amour pour l'humanité. Car tout ce qui trouve sa source dans le vrai amour de Dieu peut aller au-delà de toute loi humaine. Saint Augustin ne dit-il pas « Aime et fais ce que tu veux » Comme Saint Paul le disait aux Corinthiens, l'amour ne fait rien d'inconvenant. L'amour fait vivre, l'amour fait revivre. C'est l'expérience du lépreux. En ce dimanche, Nous sommes appelés à méditer plus sur l'audace du lépreux et de Jésus que sur le miracle. Combien de fois sommes-nous restés réticents à oser une parole, un geste ou une rencontre qui redonne vie? Combien de fois sommes-nous restés fermés à toute compassion? Aujourd'hui encore, il y a des personnes qui sont exclues de nos sociétés, de nos vies ou de nos cœurs. Aujourd'hui encore, il y a des personnes que nous ne voulons plus voir ni toucher, des personnes à qui nous ne voulons plus adresser la parole. Pouvons-nous oser briser la glace comme Jésus? Le vrai chrétien est celui qui prend Jésus pour modèle. Le vrai chrétien est celui qui imite le Christ pour réintégrer dans notre existence et dans nos sociétés ceux qui en étaient exclus. À quand cette contamination de l'amour et du bonheur? Aujourd'hui, la lèpre représente tout ce qui altère nos relations non seulement avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs. La lèpre, c'est tout ce qui exclut, c'est tout ce qui fait souffrir. La contemplation du lépreux de l'Évangile nous invite à ne pas nous décourager dans nos efforts de guérison. Du fond de nos souffrances, ne nous fatiguons pas d'oser toujours crier vers Jésus. Le temps de carême qui commence bientôt est aussi une occasion qui nous est offerte de nous mettre aux genoux de Jésus en faisant notre la prière du lépreux. En ce jour du Seigneur, laissons-nous toucher par l'amour et la miséricorde de Dieu. Ainsi, nous serons de vrais témoins du Seigneur parmi nos frères et sœurs.
Le père jésuite Martin Bahati continue de nous présenter l'encyclique du pape Fratelli Tutti.
Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons la lecture du premier chapitre de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Rappelons que ce chapitre est intitulé « Les ombres de monde fermé ». La fois passée, nous avons lu la partie concernant les droits humains qui ne sont pas assez universels. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture avec le point sur les conflits et la peur. Les guerres, les violences, les persécutions pour des raisons raciales ou religieuses et tant d'atteintes à la dignité humaine, souligne le pape, sont vues de différentes manières selon qu'elles conviennent ou non à certains intérêts fondamentalement économiques. Ces situations de violence, continue le pape, se multiplient douloureusement en de nombreuses régions du monde au point de prendre les traits de ce qu'on pourrait appeler une troisième guerre mondiale par morceaux. Comme dans toute guerre, ce qui tombe à ruine, c'est le projet même de fraternité inscrit dans la vocation de la famille humaine. C'est pourquoi toute situation de menace alimente le manque de confiance et le repli sur soi. Avec cette remarque du pape, l'on comprend que le monde avance dans une ambiguïté, une dichotomie. On remarque une prétention de garantir la stabilité et la paix sur la base d'une fausse sécurité soutenue par une mentalité de crainte et de méfiance. Paradoxalement, souligne encore le pape, certaines peurs ancestrales n'ont pas été surmontées par le développement technologique. Au contraire, elles ont su se cacher et se renforcer derrière les nouvelles technologies. L'encyclique montre qu'aujourd'hui encore, de nouvelles barrières sont créées pour l'autopréservation. Réapparaît aussi, souligne toujours le pape, la tentation de créer une culture des murs, d'élever des murs dans le cœur, des murs érigés sur la terre pour éviter cette rencontre avec d'autres cultures, avec d'autres personnes. Et quiconque élève un mur, quiconque construit un mur, finira, affirme le pape, par être un esclave dans le mur qu'il a construit lui-même. La solitude, les peurs et l'insécurité de tant de personnes qui se sentent abandonnées par le système, note l'encyclique, créent un terrain fertile pour les groupes mafieux. Il s'affirme en effet en se présentant comme le protecteur des oubliés, souvent grâce à diverses aides, alors qu'ils poursuivent leurs intérêts criminels. Il existe une pédagogie typiquement mafieuse qui, avec une force mystique communautaire, crée des liens de dépendance et de subordination dont il est très difficile de se débarrasser.
C'est ainsi que prend fin cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Françoise Zagnamien. Merci de votre aimable attention et surtout de votre fidélité renouvelée à Radio Vatican. Au revoir.
Nous avançons.